Mon dernier, mon dernier. Fremdgeworden, schwer Juren, Männer viele. Ich gedenke nicht mehr die Zwille, ich gedenke nicht mehr die Zwille, ich gedenke nicht mehr die Zwille. Мой дорогий, мой дорогий,
auditeur de Colavif, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un poète qui écrivait en français, d'origine roumaine, un peu comme Benjamin Fondane la dernière fois, qui s'appelait Ilari Voronca. Et le titre de ce petit hommage s'appelle « Rien n'obscurcira la beauté du monde ». Tous les flashs sonores qui vont encadrer un peu la lecture de cette étude sur Ilari Voronca seront d'un seul compositeur, Henri Dutilleux. Et je ne reviendrai pas sur les titres à chaque fois, mais sachez que c'est tiré à la fois des Métaboles, des Mystères de l'Instant et également de The Shadow of Time, c'est-à-dire les Ombres du Temps. Revenons à Rien n'obscurcira la beauté du monde. Ce merveilleux titre, cette proclamation d'espoir est celle d'un recueil d'Ilari Voronca, qui était un immense poète roumain écrivant en français. Au soir du 4 avril 1946, Ilari Voronca rentre chez lui. Chez lui, enfin, lui qui a rarement eu de chez lui. Il rentre, disons, dans sa demeure terrestre. Là, il s'enferme dans la cuisine, prend du temps pour méticuleusement calfeutrer portes et fenêtres. Il en vérifie l'étanchéité avec maniaquerie. Puis posément, il avale tout un tube de somnifères, lui qui n'en prenait jamais, ses faux amis du sommeil. Il boit de l'alcool par-dessus, lui qui ne buvait pas du tout, et arrache le tuyau de gaz. Sans un mot derrière lui, sans le moindre signe, il attend, comme il attend tant entendu les clignotements de la vie. Et lui, qui savait donner aux hommes les rêves d'un arbre ou d'une rivière, s'en va. Il avait 43 ans à peine, et c'était déjà sa deuxième tentative de suicide. Il avait écrit un livre, son plus célèbre, qui s'appelle « Ulysse dans la cité ». Il avait écrit en roumain. Il avait alors 23 ans. Et Roger Vaillant, ébloui, l'avait immédiatement traduit en français. Mais son état à lui, lui, pauvre Ulysse, était les fleuves de la mort auxquels il avait tenu tête lors de toute l'occupation nazie. Il avait tenu tête à la cage d'écureuil de la vie, qui tourne tous les jours, celle où se brisent toutes les barques de l'amour. Sa vie, il avait enfermé dans ses livres, comme un commentaire, comme les traces d'un autre. Ces hallucinations simples ou profondes, il en avait fait de la poésie. Mais là, il n'en pouvait plus. La corde était trop tendue, le désespoir était trop vivace, et lui qui, au-dessus des toits, voulait bâtir un autre ciel de chair, s'est enfermé dans lui-même. Ilarivo Ronca faisait partie de ces écrivains roumains qui, un jour, ont ressenti l'appel de la France et de sa littérature dont il était nourri. Alors, comme cela, il abandonnera sa langue, sa culture, mais pas leur nostalgie profonde qu'ils avaient d'enrichir la poésie française. Je vous rappelle qu'en Roumanie, c'était presque le français qui était la deuxième langue. Un jour, il faudra sans doute écrire cette histoire de l'émigration de toute l'avant-garde roumaine vers un autre pays. Le peu qui resta en Roumanie, connu dès 1947, l'obscurantisme et la tyrannie communiste. Dès les années 20, les Roumains se sont lancés dans l'aventure du modernisme. Et Bucarest vibrait à l'unisson de Paris dans le dadaïsme, le surréalisme et tout autre débat culturel. En 1924, alors que paraît en France le manifeste du surréalisme, Tzara fonde avec Ilarivo Ronca la revue 75HP, qui se vante de réunir dans ses pages l'unique groupe d'avant-garde de la Roumanie. La revue perpétuait déjà l'esprit du dadaïsme. Tzara et Brancusi envoyaient les étincelles qui venaient feu de joie parmi les intellectuels roumains. Livres, revues, expositions fleurissaient. Tous les domaines de l'art étaient concernés. Littérature, art visuel, musique, architecture étaient réinventés. Victor Brauner, Benjamin Fondane, Jacques Hérold, Claude Cernet, Ilarivo Ronca, Tristan Tzara, Paul Celan, Brancusi, Eugène Ionesco, Eliade, Émile Sioran, Gerasim Luca, Panay Istrati, Anna de Noailles, qui était née Brankovan, furent ses messagers des mots et des images. Tous vinrent s'installer à Paris pour fuir diverses contraintes, et tous, par un profond retournement, feront de la langue française leur seule patrie. Ils l'avaient étudiée pour la plupart en Roumanie, mais de là à l'investir, il fallait plus que du courage. Il fallait vraiment la passion fusionnelle avec les mots français. Ils l'avaient. Pourtant, Benjamin Fondane, leur précurseur, avait prévenu que les mots se meurent de changer de bouche. Mais eux avaient dû renaître. Il ne s'agissait plus de traduction, mais d'une nouvelle vie dans un autre monde de mots. Et maintenant, la littérature roumaine est connue principalement par ces noms-là qui écrivaient en français. Et maintenant, on les retraduit en roumain. Michel Deguy dit « La poésie est traduisible, elle est aussi intraduisible ». Fondane, pourtant Benjamin, dont je vous ai parlé la dernière fois, traduira le Voronca des années roumaines. Et il saura le traduire. Le traduisible de ces poètes roumains ne fut pas de reprendre leurs poèmes, mais de les couler dans des vers modernes, attentifs au rythme de la nouvelle langue. Et les vers sont restés des vers. Pour la plupart de ces écrivains, le clivage du roumain en français perpétuait déjà d'autres clivages. Culture juive et roumaine. Pour Fondane et Voronca, Tzara, Luca, Ceylan, clivage géographique d'un état parcellisé qui maltraitait ses minorités pour les autres. Et, comme le dit Voronka, les émigrants ne cessent d'escalader la nuit. Ils grimpent dans la nuit jusqu'à la fin du monde. Ils nous l'ont rapporté dans les filets de leur œuvre. Mais qui était donc Ilari Voronka? La question mérite d'être posée parce qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie, il était très discret. Et ce n'est pas dans les librairies que vous allez trouver la réponse parce qu'il n'y a quasiment aucun livre d'Ilari Voronka disponible. Alors la réponse, il faut la trouver simplement dans un poème qu'il a écrit. Ce poème, c'est « Sous la lumière rouge de la lune ». L'enfant dépossédé erre nu et seul dans la rue. Ce n'est plus un enfant maintenant. Il ne se rappelle plus ce qu'il est venu faire dans ce quartier de la ville qui lui semble soudain inconnu sous la lumière rouge de la lune. Perdu entre des millions d'hommes, le ressemblant de plus en plus jusqu'à ne plus me reconnaître, pouvant aussi bien vivre leur destinée que pouvait vivre la mienne avec la faim, le froid, inscrit sur le visage, et quelquefois l'extase hébétée d'un désir satisfait. Ce n'est pas moi qui ai su faire un outil de mon corps pour dresser dans la mémoire du monde ma statue. Une montagne, une mer ont suffi pour remplir mes poches. Dans les villes, mon ombre fut craintive dans les égouts, et quand les promeneurs disaient avec respect cette bâtisse, un tel et ce carrosse est un tel et ce jardin et cette vallée sont un tel. Ce n'est pas mon nom que prononçaient leurs lèvres. Mais moi, qui n'ai jamais rien eu, comment pourrait-on se souvenir de moi? Car pour s'en souvenir, il faut palper, voir ou entendre. Et que pourrait-on voir, entendre ou palper sur quelqu'un qui n'a que son regard comme une feuille de nénuphar sur l'eau de son âme paisible? Il y en a certes qui font des actions méritoires, des capitaines qui conduisent des hommes au combat. Et si un seul parmi ceux-ci échappe à la mort, il porte témoignage pour la vaillance du chef. Il y en a qui demandent des sacrifices aux foules. Que chacun, disent-ils, fasse son devoir et qu'il se contente d'un salaire minime. Ceux-là, on les nomme bâtisseurs d'avenir. Leur pouvoir est grand, non seulement des bêtes, des machines et des pierres, mais des hommes aussi qui font partie de leur avoir. Pour avoir une identité, il ne suffit pas de posséder deux bras, deux jambes, deux yeux, un nez, une bouche. Il faut que quelque chose qui est en dehors de vous vous appartienne. Une terre, une maison, une forêt, une usine, ne serait-ce qu'une petite échoppe de cordonnier. Une écurie de course, ce serait parfait, mais il ne faut pas viser trop. Un troupeau de brebis ou même quelques volailles ferait très bien l'affaire. Car l'homme, avec ses angoisses et ses soifs d'infini, est si peu de choses. Que pour qu'il puisse susciter l'estime, il doit s'adjoindre à quelques bêtes ou quelques pierres inertes, s'entourait de l'autorité d'une grange, d'une carrière de sable. Alors, ceux qui le croisent voient autour de lui les murs de sa demeure, le souffle de ses buffles. Alors, sa figure augmente de tout ce qu'il possède. Et les hommes s'en souviennent. Mais moi, pour la gloire de qui, ni bêtes, ni gens n'ont travaillé, je suis passé sans laisser de traces. Nulle empreinte ne ressemble à celle de mon pas. Mes initiales ne sont gravées ni sur l'écorce des arbres, ni sur les croupes du bétail. Ah ! J'ai peut-être été entraîné dans ce passage terrestre, comme un qui se trouve involontairement mêlé à quelque histoire honteuse. Il valait mieux que je fusse méconnu, que personne ne puisse dire « Il était comme cela ». Non, rien de particulier dans le visage. Je n'étais ni champion de force, ni chanteur, ni meneur d'hommes. Quelle chance d'être passé inaperçu. Et quand les juges chercheront les noms, ils ne trouveront pas le mien, ni dans les cadastres des mairies, ni parmi les titulaires de chèques, ni parmi les porteurs de titres. Non, pas même sur une croix ou sur un morceau de pierre. Quelque part se mêlant aux blancheurs d'un ciel bas, mes os seront pareils aux herbes arrachées. Un autre élément de réponse possible est de signaler quelques indices de ces traces terrestres. Il est né le 31 décembre 1903 à Braila, c'est en Roumanie. Il a fait des études de droit, mais surtout de littérature française. Son premier livre de poèmes en roumain, Tristesse, est illustré par le grand Victor Brauner. En 1923, il se lance dans le mouvement Dada, à corps perdu. De 1926 à 1936, il publie plusieurs ouvrages illustrés par Sonia et Robert Delaunay, Chagall, Tzara. Il a aussi écrit « La joie est pour l'homme ». Mais cette devise, il ne la mettra jamais en pratique. En 1938, il devient citoyen français. En 1939, il est démobilisé et se réfugie à Marseille et Haute-Provence, puis en Rouergue, où il fait partie d'un maquis, le fameux maquis Daniel. Et là, il se lie d'amitié avec Antonin Artaud. Et tous les deux devisent longuement en se promenant dans les rues vides de Rodez. Mais la véritable réponse est dans sa poésie. C'est une poésie à relire et goûter sans cesse, et de la fraternelle sollicitude de laquelle il faut sans cesse, nous, qui continuons notre route, nous sentir accompagnés. Cette belle définition est de Jean Cassou, autre grand résistant. Et il arrive au Ronca, se sentait, je le cite, frère des hommes avec ferveur, aussi frère des bêtes et des choses, des livres et des villes, de l'espoir et du malheur. Et souvent, les thèmes de la route, le mythe du retour, le mythe de l'Odyssée, donc le mythe d'Ulysse, celui de l'enfance perdue, le mythe de la nostalgie d'un paradis, lui aussi perdu, mais qu'il sait très bien n'avoir jamais existé, font tout ça, fait finalement maison dans ses mots. Nostalgie sera le maître mot de son œuvre. Pour tout cela, la conscience malheureuse est inguérissable, et la fraternité, fondement de leur vice, s'effrite devant eux. Voici un autre poème d'Ilari Voronka sur ce thème-là. Ça s'appelle « Où sont les hommes ?» Quand les marmites ne voudront plus obéir, quand le bois, comme un oiseau qui s'envole, quand les pierres s'effriteront pour se moquer de nous, quand dans les buffets, à la place des couverts, de longs serpents venimeux. Quand nous souhaiterons enfin une présence humaine, quand nous aurons besoin d'une voix humaine, quand l'homme que nous avons meurtri, crucifié, pourra nous faire du bien avec son regard qui pardonne. C'est en vain que nous irons dans les prisons. C'est en vain que nous appellerons dans les chambres de torture. C'est en vain que dans les camps de la maladie et de la faim, nous irons recueillir ce qui reste de l'homme. Quand l'eau rira libre, loin de nos lèvres, quand les fleuves, comme de la fumée à notre approche, quand les roches couvertes d'algues et de varechs sortiront comme un troupeau hallucinant de l'océan, quand la paix comme un fouet cinglera nos faces, quand les arbres comme des rennes fuyant dans la nuit, quand les chaises, les tables et les armoires, sans se gêner, conspireront en notre présence pour nous perdre, quand la solitude demandera son salaire, c'est en vain que nous nous souviendrons de nos semblables, dans les soutes, dans les cavernes, dans les casemates, il n'y aura plus qu'un peu de sang et de rouille sur les chaînes. Que je vous ai lu, Où sont les hommes, bien entendu, vous l'avez compris, un poème sur la Shoah. Je vous rappelle, je vous confirme qu'il arrive Voronka était juif. Les poèmes de Voronka sont en fait translucides. Sa langue est simple. Elle retrouve les volutes de son exact contemporain, Oskar Vincenslas Miloš, qui était lui lituanien, écrivain en français. Il a, comme lui, la même beauté liquide. Sa forme est classique. Il semble toujours à la lecture que ces mots vous mettent naïvement la main sur l'épaule, comme de vieux amis de toujours. Un tout petit livre paru en 1967 et épuisé depuis, chez Segers, reste en fait sa seule trace de ces belles et lumineuses écritures. Ilari Voronka fut un voyant, un frère lumineux et doux, qui voulait annoncer l'espérance et qui en sera broyé par le fait qu'il ne la voyait pas venir. Lui qui hurlait dans les rues de Rodez, au bras d'Antonin Artaud, voulait nous rendre la poésie comme on rend la vue aux aveugles. Il aimait ses semblables, mais ses semblables l'ignorent. Alors, comme le disait Tsara, une partie de nous-mêmes a été emportée par la mort, et par sa mort surtout. Tsara fait un très bel hommage à Voronka. Peu d'écrivains, en effet, dégagent une telle ferveur. Ils semblent être tombés pour nous, éclairés, tombés au champ d'honneur de la vie quotidienne, si difficile à porter seul. Il aura crié de solitude, et ne voyant pas de voie d'issue pour lui, il en tracera pour nous. Vaincu de la vie, gueule cassée de l'amour, Voronka aura proclamé l'amour humain, la joie de l'autre, sa haine de l'indifférence, sa volonté de combat. Pourtant, on ne sait pas pourquoi. Il aura refusé de croire en ce qu'il disait comme un message de lumière. Nul n'a compris son suicide. Et le désespoir l'a entraîné dans ces cercles concentriques dont on ne sort pas. Le grand écart entre le rêve et la vie l'a aspiré par le fond des nuits. L'empreinte de ses mots est restée. Il voulait être parmi les hommes de l'avenir. Il reste vivant parmi nous, en route vers l'océan de la joie, de la soif future. Voilà ce qu'il dit. C'est le jour que je veux raconter, cette joie et ce salut de l'homme. Mais il n'était pas fait pour chanter et surtout vivre le bonheur. Il ne savait ouvrir que les portes des nuages. Thank you. Dans la tradition du Zohar, le livre de la splendeur de la Kabbale juive, il est dit la chose suivante. Crier, prier, chanter sont les trois degrés décroissants de manifestation de la colère sacrée de l'homme. Voronka fut un homme en colère. Il aura peu prié, beaucoup crié et chanté, et voyant que ses mots ne s'élevaient pas jusqu'aux hommes, il se sera supprimé. Voilà ce qu'il dit. Il arrive parfois que quelqu'un vous parle, et c'est en son absence plus tard que l'on comprend le sens de ses paroles. Il arrive, Ronka me manque, peut-être qu'il vous manquera un jour à vous aussi, mais à moi il me manque terriblement. Son absence fait un trou, je commence à peine à comprendre le sens de ses paroles, de ce qu'il disait. Vous avez compris que j'aime la poésie de Voronka. Il a su se rendre invisible, se tenir à l'écart, et pourtant il était bien au milieu de moi. J'aime vraiment beaucoup la poésie de Voronka. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Les pleurs peuvent inonder toute la vision. La souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge. Le regret et l'amertume peuvent élever leurs murailles de cendres. La lâcheté, la haine peuvent étendre leur nuit. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Nulle défaite ne m'a été épargnée. J'ai connu le goût amer de la séparation et l'oubli de l'ami et l'éveil auprès du mourant et le retour vide du cimetière. Et le terrible regard de l'épouse abandonnée et l'âme enténébrée de l'étranger. Mais rien, rien obscurcira la beauté de ce monde. Voilà ce qu'il disait. Il a ri. Tu avais raison. Rien ne peut obscurcir la beauté de ce monde. Voilà pour terminer cet hommage à Voronka. Quelques poèmes écrits en français, bien sûr. Voici. Il est devant la porte ou devant la fenêtre. Mais l'a-t-on reconnu? Il est venu peut-être pour entendre nos voix et regarder nos yeux. Ces routes de la nuit mènent vers ses grands yeux. Il voudrait nous parler aussi. Mais nulle larme ne lui est de secours. La mer brûle ses armes et ses navires, ses aurores, ses couchants. Nous sommes là, plusieurs à écouter son chant. Et son souffle, pareil aux orages de sable. Et tout devient plus beau. Nul contourail sable, nulle faim, nulle soif pour tenir son amour. D'où revient-il? Du nord? De l'ouest? Tous les jours, il rôdait là. Mais nul ne l'a su. Nulle part un regret dont il n'eût pas souffert. L'injustice, les lois méchantes, dans ses vers passèrent comme la chenille par la feuille. Et tu y es aussi, lecteur, que tu le veuilles ou non. Le sauras-tu? Il te faudra encore te détacher de toi, tel un vaisseau de bord de l'océan. Ouvre ce livre. Mais peut-être une ombre te fera deviner aux fenêtres ou dans la chambre, ainsi qu'un souffle. Auras-tu peur? Ce voyant, ce proscrit, ce triste voyageur. Il faudra ici te quitter, ombre, frère. Je laisserai ces beaux, ces chants inachevés. Le souffle est là, tout près, qui mélange les terres et nos regards, nos mains et nos sommeils. Je vais, sans savoir où. Et toi aussi, ombre cruelle, au souvenir oiseau qui dans l'air se dissout, le soir est tel un vaisseau qui appareil, nous séparant de tout ce qu'une fois fut nous. Ce poème s'appelait Permis de séjour, il est de 1935. Un autre poème qui s'appelle Regrettant toujours. Ce sera peut-être comme dans cette vie, je m'écrirai, c'est ici que je veux demeurer, comme je m'exclame autrefois devant un beau domaine, c'est ici que je veux vivre, je dirai, dresser une tombe ici. Mais la mort ne me laissera pas plus de répit que la vie. Elle m'éloignera de tout ce qui me sera cher. Les forêts, les mers avec leurs chevelures resteront en arrière sur un rivage immatériel. Parfois, je reconnaîtrai le jardin calme que j'ai vu de la fenêtre en cet après-midi du printemps. C'était la première fois que je pénétrais dans cette chambre où la jeunesse était enfermée avec son parfum de pomme et de coin. J'étais là, à la fenêtre, mais quelqu'un qui me ressemblait et qui pouvait être mon esprit planait parmi les branches de la saison, se drapait dans les voiles qui tissaient de leurs chants les oiseaux. Et je compris que le bonheur est cet instant où l'on voit soi-même heureux sur une allée d'un jardin. Et votre semblable vous supplie, restons ici dans ce paisible crépuscule. Qu'importe alors si on est vivant ou mort, c'est la mort ou la vie qui ouvre ses fenêtres. Le printemps marche en robe de dentelle, on veut le suivre, on est déjà trop loin. Ainsi on traverse les contrées, les chambres, parfois l'on passe dans un moulin. La farine blanche d'une joie vous recouvre, et l'on rit, on secoue ces neiges d'abondance. Si l'on a tant de regrets, si l'on veut revenir, c'est que celui qui vous ressemble et est vous-même vous suit d'un pas lent, le visage tourné vers le domaine, une pourse, une herbe inoubliable. On les reverra certes, ce crépuscule de ce printemps, aux portes ouvertes de nuages. Sans jamais s'arrêter, regrettant toujours ce bonheur qu'on a cru saisir, insaisissable. J'ai été vivant comme vous, mes amis, et dans les jardins tristes, provinciaux, j'ai fait de longues confidences. J'ai été aussi l'errant qui désire un toit familier, qui n'a pour vêtement que la lumière et la pluie. Oh, être votre compagnon, vous reconnaître une fois encore, ma vue pleine de choses de ce monde comme une eau très poissonneuse et ce regard du mourant bu par le visage comme une rivière qui sèche. De ce promontoire on aperçoit la mer comme une fenêtre éclairée doucement derrière laquelle, très tard, dans une nuit d'hiver, le poète cherche une aurore nouvelle parmi ses manuscrits. Mais cette transfusion lente vers l'immobilité, vers la mort, ces vases communiquant la vie et la mort, dont je prends conscience, cette source qui est en nous dès notre naissance et qui ne jaillit qu'au moment même de notre mort, nous fera-t-elle enfin tout savoir, ces couleurs et ce grand jour sans aube dont on approche. Le visage est ici, mais son contour est ailleurs. On peut s'en éloigner, on reste toujours proche. Cela appartient à un autre temps. Oh, mes amis, cette porte où l'on frappe et quand on l'ouvre, il n'apparaît personne. Oh, comme j'aurais voulu reconnaître celui qui était là sur le seuil, sans figure et sans voix, comme j'étais vivant comme vous. Mais aujourd'hui, je suis celui-là même que vos yeux cherchant vain dans les ténèbres par les portes béantes. Entouré de grandes yeux comme des chiens invisibles, dont on entend tout près le souffle qui halète. C'est tiré de Poésie commune de 1936, notre texte. Il arrive parfois, seul, triste, un étranger. Il s'arrête, et on écoute ses récits doux, pleins d'herbes. Il demande : « Vous ai-je dérangé ?» Il voudrait repartir, mais il ne sait plus où. Dans ses oreilles bruit la mer. Des coquillages? Son front, ses yeux trop grands pour ce bas horizon. Une raison encore de partir. Ses voyages sont là devant lui, plein d'océans, de monts. On laisse aussi doucement le soir descendre qui mélange les figures, les mains, les voix, devenus presque des esprits. L'autre pourra comprendre. Mieux, tel le toucher des aveugles, cette fois. C'est toujours tiré de poésie commune. Notre poème, qui s'appelle Parfois. Parfois, on reconnaît la présence d'un mort. Il n'a ni main ni visage. Il est ce brouillard qui enveloppe doucement les maisons, les objets, les visiteurs réunis là. Il est peut-être cette lumière qui filtre de la chambre à côté, ni signe, ni voix, mais un espoir indéfini qui annonce un monde meilleur. Cette présence de mort bienveillant comme un nom qu'on voudrait dire mais qu'on a oublié, ou comme une écriture secrète qu'on ne sait plus faire réapparaître. Non, il n'a que faire de nos sens. Invisible, visible, mais il nous oblige à parler bas. Il nous approche les uns des autres. N'ayez pas peur. Il se tient là avec cette bonté immense dont il voudrait nous faire part. Au lieu de l'oreille qui entend, voudrais-tu être la chose entendue? Et au lieu de l'œil qui voit ce contour qui est vu? Non, pas le sens, mais l'arôme. Non, pas la bouche, mais ce goût amer ou doux, ce goût d'herbe. Il n'y a rien dans cette pomme. Il n'y a rien sur ce front. Non, il n'y a rien sous l'écorce de ces pieds immobiles. Le vivant, le mort sont ailleurs. Ils ne sont jamais là où nous croyons les voir. Une brume douce, une aube qui se lève, et ce moment qui s'enfuit. Cet appel faible d'un oiseau, très tard, quand il fait jour, on se rend compte qu'il était déjà là, comme une aurore déjà lointaine. Rien ne changé ? Les miroirs, les objets nous retrouvent. Quelques cheveux gris aux tempes. Mais ce n'est rien. Un sourire plus triste. Et néanmoins, le visage a gardé une empreinte, comme sur les feuilles. Une première rosée à peine visible. C'est aussi que parfois dans la rue, il arrive que l'on sente avoir rencontré quelqu'un. On cherche du regard au-dessus de la foule. Il n'y a personne. Et pourtant, on est sûr qu'un ami est là. Et l'on éprouve tout à coup une gêne, une tristesse indéfinissable. Qu'avait-il à nous dire ce mort cher? Quel navire perdu loin sur la mer? Quel peuple nous faisait signe par sa voix? Mais les mailles de nos paroles furent trop larges pour retenir son silence. Cette fumée qui plane au-dessus de nos têtes se vole comme un bruit qui s'efface. Et les ombres amicales et ses hymnes pour saluer une terre libre. Cette douce protection sans parole d'un mort. Ne sont-ce pas les murs qui s'étendent comme des ailes? N'est-ce pas cette chambre qui se donne au brouillard? Et l'homme jeune sur l'épaule duquel le vieillard s'appuie. Et le temps nouveau qui mène vers l'amour. Tous les mots anciens. Nous allons tout à l'heure nous mêler, nous aussi, aux brumes, au bruissement perceptible de ce fantôme vaste, et nous serons nous-mêmes la présence d'un mort qui veillera près des hommes heureux de l'avenir. Un autre poème, toujours extrait de la poésie commune. Ai-je déjà été autrefois dans cette chambre? Et ces plaintes, les ai-je autrefois entendues? N'as-tu pas pour nom solitude, toi qui m'attends là? Et le silence, n'est-il pas la pierre polie au fond de ces cris? Je me souviens de la table et du livre et des vitres, et du peuplier qui hoche la tête à ma fenêtre. Je suis comme un enfant que l'on craint d'effrayer. On me montre ce monde sous d'anciens contours. Est-ce mieux ainsi? Un changement imperceptible. J'appelle en vain la sœur et l'épouse et le frère. Tout est ici comme au temps de ma vie. Je reconnais les choses, mais où sont les visages? Le vent rôde autour avec ses airs de mystère. Si je me penche au dehors, il est déjà trop tard. Qu'a-t-il donc emporté pour moi fuir à ma vue? Ou bien voulait-il vendre le fruit de quelque vol? Le climat aussi est celui de mon enfance. Mon ombre, comme autrefois, est voûtée sur le mur. La clarté, avec son odeur de mandarine à 4 heures, rouge dans ma main. Ah! Dois-je retrouver tout ceci comme une coquille vide? Me suis-je trop attardé sur les routes? Peut-être si plus tôt j'avais franchi ce seuil, parents et amis seraient venus à ma rencontre. Suis-je, comme l'insecte au bord de la chrysalide, ignorant son propre changement, se croyant toujours entouré de l'ombre familière? Et l'aile se déploie dans un univers nouveau. Demain, un autre jour, je verrai peut-être les teintes, les contours frais de cette demeure, et j'apprendrai enfin si j'étais déjà ailleurs, lorsque je me voyais dans la chambre de ma vie. Et enfin, pour conclure, un dernier poème, qui s'appelle d'ailleurs poème. C'est le souvenir que tu veux chercher sous l'écorce, amère de l'orange, le soleil de sa chair. Dans ma mémoire, il n'y a que cette solitude de la forêt où gît le bois mort de l'espoir. Allons, impitoyable, tends-moi la main. Je devais venir vers toi, me voici, je viens, mes pieds saignent, mes regards se troublent, je n'en peux plus. À 2 pas de toi, je suis comme le soldat qui porte un message dont il n'a jamais pris connaissance et qu'à tout prix, il doit remettre au lointain destinataire. Il se traîne, blessé. Il tend le pli plein de sang et de boue. Moi aussi, j'ignore tout du message que fut ma vie. La voici, déchirée, salie. Je te la tends. Ô ma mort, laisse-moi me reposer pendant que tu la lis et en prends connaissance. Ceux qui en prison veulent savoir si l'arbre monte encore vers le ciel, si le fleuve, le vent rôde encore autour des villes et si l'aube a ce bruit encore d'une voiture de maraîcher. Ceux qui dorment, ne craignent-ils pas qu'à leur réveil, les morceaux épars du monde ne s'emboîtent plus? Les voici qui se lèvent et regardent par les vitres. Il est bon que les rues, les murs soient à leur place. Mais pour les prisonniers dont les lois ont bâti au fond d'une bouteille un palais, un navire, et dont l'oubli à peu à peu ronger les choses, comme la mer qui lentement défigure les roches, l'arbre est déjà un oiseau, le champ et le nuage, le matin a un doux tremblement de chevreuil pour faire entrer les monts, les blés dans leurs cellules. Ils ont changé les cours des eaux et les frontières. Ce dernier poème est de l'année de sa mort, il s'appelle Contre-solitude. Chers auditeurs, je vais vous quitter en musique. Au revoir.